Vous écoutez Parole de politicien, nous sommes en direct et prochaine invitée c'est Dominique Olivier, présidente du Conseil exécutif de Montréal. Elle a une formation en génie, une maîtrise en administration publique de l'École nationale d'administration. Elle possède plus de 25 ans d'expérience de travail en gestion, tant de projets que d'organismes et en communication. Elle a occupé différents postes au sein d'organismes sociaux, des cabinets ministériels au gouvernement du Québec de 1995 à 2001 et au cabinet du chef du Bloc québécois à Ottawa 2001-2006 avant d'assumer la direction générale de l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes ICEA de 2006 à 2011. Tout un parcours. Bonjour, madame.
Oui, et je pense qu'on a oublié le plus important. J'ai quand même passé une dizaine d'années à l'Office de consultation publique de Montréal.
Oui.
Et je pense que c'est ça qui m'amène...
C'est tout à fait à siéger. Alors, la règle du jour de l'émission, première partie... On parle de votre enfance. Seconde partie, on va dans le politique. Mais je sais très bien que chaque personne a une inspiration politique dans son enfance. Je pense que ça va être un petit peu comme ça avec vous. Donc, alors, vous êtes né où? Comment ça a été? Est-ce que vous aimiez l'école? Vous étiez fâché avec l'école? Ou...
Oh, ben écoutez, moi, je suis né en Haïti. Je suis arrivé ici. Mes parents ont immigré en 1965, je pense, de mémoire. Moi, je suis né en 64, donc c'est point des besoins de vous dire que je ne m'en souviens pas. Mon père était l'écrivain Émile Olivier, bien connu dans la communauté haïtienne. Oui. Ma mère était un professeur à l'époque de secondaire, puis de cégep en littérature française. Mais mes deux parents étaient des gens très impliqués. Ils ont quitté Haïti suite à la grève des étudiants dont ils étaient partie active. Mon père a même été emprisonné pour ses convictions sous Papadoc. Alors, il a vraiment dû quitter le pays. Et dans leur tête, ils venaient... Alors, mon père avait cette expression, il disait « On va se mettre à l'abri de la pluie ». Donc, pour eux, c'était vraiment quelque chose de temporaire. Ils venaient ici...
C'est très joli.
...au Québec, et ils ont été... des éponges. Alors, moi, j'ai grandi dans ce milieu, puis en plus, on est arrivé en Abitibi, donc point n'est besoin de vous dire, on est vraiment imprégnés, on est les seules personnes noires là. Et très rapidement, les amis de mes parents sont venus s'installer à Amos aussi, ce qui fait que quand nous, on quitte au début des années 70, ils sont déjà presque une douzaine de familles. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ça dans l'idée. Et moi, je grandis dans une famille qui est très militante politiquement, qui milite pour le droit de parole, pour avoir tu sais, des conditions qui, pour tout le monde, sont plus intéressantes, qui pensent beaucoup au bien collectif, mais aussi une famille éprise de littérature, éprise de sciences politiques, de philosophie. Alors...
Donc, très riche intellectuellement.
Très riche intellectuellement. Et moi, je suis enfant unique. Donc, je traîne derrière mes parents, derrière leurs amis exilés, derrière, justement, dans leur profession. Ils sont professeurs, donc, de littérature, de philosophie. Donc, tu sais, je suis vraiment baigné, j'ai vraiment baigné dans ce milieu-là. Et je dirais que l'anecdote la plus drôle, enfin, moi, c'est un souvenir qui est flagrant chez moi, je me souviens. Je suis allé chez mon dentiste et il me parle pendant qu'il fait, j'imagine, un nettoyage ou je sais pas quoi. Et il essaye de me distraire et il me dit « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grande? » Et moi, je réponds « Je vais être maire de Montréal. »
C'est pas vrai.
Oui. Alors,
c'est pas vrai.
Je veux qu'on s'en souvienne.
Mais vous aviez quel âge? Hein?
J'avais 6 ans.
Mais c'est incroyable.
Je veux qu'on s'en souvienne.
C'est incroyable.
Parce qu'à l'époque, pourquoi moi ça me frappe aujourd'hui, c'est parce qu'à l'époque, il n'y a aucune femme qui siège au conseil de ville.
Mais c'est fantastique.
On est sous le maire drapeau, mais il n'y a personne qui siège comme femme. Et il y a personne. Et il va falloir attendre l'élection de 94, si ma mémoire est bonne, pour que Kathleen Beauregard soit la première femme noire à faire son entrée.
Tout à fait.
Alors bien sûr, c'est accueilli avec un immense éclat de rire. Et je vous dirais que c'est peut-être la première fois. Je pense que c'était
pas
méchant.
Mais vous étiez de toute façon sérieuse là quand vous avez
j'étais
dit ça.
Très
c'était,
sérieuse.
C'était pas dire n'importe quoi. C'est pour impressionner. Vous étiez sérieuse.
Ah, j'étais très sérieuse dans ma tête. Ça me semblait être ça. J'ai fait des recherches récemment, puis ça va vous faire rire encore plus. C'est vraiment l'année où le droit de vote universel à Montréal, c'est-à-dire, quand je dis universel, c'est-à-dire de tous les citoyens, avant ça, on n'avait pas le droit de vote de tous les citoyens. Donc, c'est la première fois que le maire de Montréal va être élu au suffrage universel. Et j'ai l'impression que j'ai dû voir des publicités à la télé ou des trucs dans les journaux qui m'ont comme convaincu que si tout le monde pouvait voter, ben moi aussi, je pouvais
Mais
y arriver.
Mais est-ce que... Parce que, je veux dire, la pomme tombe jamais très loin de l'arbre. Est-ce que votre père, votre mère était féministe? Est-ce qu'elle vous sentiez, est-ce qu'elle vous parlait de la différence de poste des femmes, l'importance de est-ce qu'elle l'était?
Ma mère était une féministe bien avant l'heure. Je peux vous raconter une autre anecdote. Quand elle arrive en Abitibi, on lui donne un poste et on lui annonce qu'elle va gagner 1 500 $ de moins par année que son mari. Et elle dit, est-ce qu'il a plus d'étudiants que moi? Non. Est-ce qu'il a plus d'heures de cours que moi? Non. Mais lui, il est chef de famille. Elle dit, ben moi, s'il est chef de famille, moi, je vais m'asseoir chez moi, je ne viendrai pas enseigner pour 1 500 $ de moins pour faire la même
Bravo.
Job. Alors ça, je vous dis, on est en 1965. Wow. Donc, tu sais, je grandis vraiment dans une famille très, très, très militante sur l'équité, sur les droits, sur la liberté d'expression. Et je pense que...
Mais c'est ça, ça vous a influencé, parce que pour que sortir ça à l'âge de 6 ans, et puis alors qu'il n'y avait pas de femme nulle part et tout, vous avez 6 ans quand même, quand vous dites que vous êtes mairesse, il y a donc vos parents vous ont... Ça, c'est clair que vos parents vous ont... Et votre mère, féministe avant l'heure.
Oui, oui, m'ont beaucoup influencé. Et je raconte toujours cette histoire-là parce que quand les gens doutent, quand on parle des jeunes, des groupes racisés qui vivent des microagressions, moi, je raconte toujours cette histoire-là parce que pour moi, c'est important. C'est dire que déjà, à ce moment-là, je me voyais dans un certain rôle de leadership. Mm-hmm. Et si on fait un fast-forward 10 ans plus tard, au moment où je rentre au cégep, j'ai 16 ans, 17 ans, je dirais 16-17 ans, et là, je ne veux plus rien être dans la vie. Je veux être la personne la plus ordinaire possible.
Non.
Oui, absolument.
Mais
ben, moi, je pense que c'est à coup de rêves brisés. C'est un peu ça que je dis. Je dis, c'est jamais des choses méchantes, mais c'est tout ce sentiment que t'es pas à ta place. Je suis dans une école où on est 2 filles noires dans toute l'école. Tu sais, tout le temps, on te renvoie à une certaine différence. Je veux vraiment pas dire que c'était du racisme, bien au contraire, c'était des choses pas méchantes, mais c'est des façons de te renvoyer ton image de
c'est
toi.
C'est subtil, mais ça fait mal.
Exactement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que le terme micro-agression explique comment est-ce qu'on peut tuer les rêves. Et encore une fois, je dirais, et puis c'est pour toutes sortes de choses. À 16 ans, j'ai fait l'émission Beaux et Jeunes, je m'en souviens toujours en riant, à Télé-Québec, qui était une émission pour et par les jeunes, avec Luc Ferrandez, qui était notre animateur à l'époque, et plein de gens. Et j'ai regardé la carrière de ces autres-là. Moi, je suis sortie de cette expérience-là, je vous dirais, encore un peu plus brisée. Avec l'impression que... Ben déjà, j'avais pas envoyé de... C'est des anecdotes, mais j'avais pas envoyé... On nous demandait des types d'audition, des... Moi, j'avais pas envoyé de photos. Je voulais être scénariste, alors j'avais envoyé des scénarios.
Mais pourquoi vous aviez pas envoyé votre photo?
Parce que j'étais sûre qu'on ne me prendrait pas si les gens voyaient ma photo. Donc, je me disais, il faut d'abord que je mette le contenu de l'avant. Wow. Quand ils vont voir la force de mon contenu, après ça, ils vont me faire. Et encore une fois, j'étais la seule personne noire dans cet environnement-là.
Mais le rêve brisé suite à l'expérience, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé sur le plateau?
Non, c'est rien qui s'est passé sur le plateau, mais c'est... Je vais vous dire, un soir, je rentre à la maison, j'ai ça, 16 ans, je suis en larmes, et mon père me dit, c'est quoi le problème? J'ai dit, on m'a traité d'intellectuel aujourd'hui. Et mon père éclate de rire, les gens qui le connaissent savent qu'il avait un rire très tonitruant. Puis il me dit, mais Dominique, les intellectuels, c'est les garde-fous de la démocratie. Mm-hmm. Eh bien, j'avais reçu le terme intellectuel comme une... insulte, comme une attaque. Parce qu'il voulait me dire que je mettais trop de contenu, que j'étais pas assez léger, que j'étais pas... Alors, c'est pour ça que je dis, des fois, les microagressions, c'est aussi la façon dont on reçoit les choses.
Et donc, vous receviez... Bon, là, vous avez dit, je veux pas parler de racisme, mais moi, j'ai envie d'en parler parce que les microagressions, me semblent des formes de racisme.
C'en est, absolument. Aujourd'hui, on mettrait le mot là-dessus, mais... on est dans un autre contexte. Hein. On est dans les années 70, début des années 80. On n'a pas la force de frappe qu'on a aujourd'hui. On n'a rien. Puis moi, je pense que j'ai eu la chance de grandir. Mais on n'a surtout pas de modèle. C'était avant Michaël Jean, avant Marianne Murat, avant Marie-Ange Barbancourt. Il n'y a personne qui me ressemble dans ce milieu-là.
Mais je trouve ça très intéressant ce que vous dites, parce que vous dites, j'avais pas de modèle à ce moment-là. Et ces femmes-là n'étaient pas... On les voyait pas. Et vous, vous cherchiez vos modèles?
Instinctivement, je cherchais du monde qui me ressemblait. Et les seules personnes qui me ressemblaient étaient à la télé américaine, étaient des modèles américains, avec tous les problèmes des modèles américains qu'on connaît aujourd'hui. Mais il y avait vraiment personne qui me ressemblait, ce qui fait que j'avais l'impression que certains rêves, certaines aspirations n'étaient pas légitimes. Mmh. Ça n'existait pas pour moi. Et je pense que c'est important d'en parler parce que... je pense que j'ai fait une super carrière,
ben oui.
Vraiment, de
alors
façon
là,
générale.
J'avais pas conclu, j'avais oublié 10 années de votre vie, mais j'avais hâte qu'on parle. Mais waouh, tout un CV d'une femme qui n'était pas très sûre, qui marchait presque sur la pointe des pieds, et finalement qui s'est vraiment, qui est allée très loin. Vous avez défoncé les portes.
C'est ce que j'ai fait. Je veux dire, j'ai choisi d'aller étudier dans un milieu non traditionnel. En fait, je pense que ce leadership qui était à l'intérieur de moi avait besoin de s'exprimer, avait besoin de trouver des façons de faire les choses, avait besoin de trouver des... oui, c'est ça, de s'exprimer, c'est le bon terme.
En même temps, j'ai l'impression que vous... parents ont été encourageants.
Ça a été.
Vous ont donné, parce que ça, c'est important de le dire. C'est important quand on n'est pas sûr de nous, quand on pense que les autres nous écrasent autour, qu'on ait des parents qui croient en nous et qui croient aux rêves qu'on a.
Oui, oui, oui.
Alors, on va... Mon Dieu. Je dis mon Dieu parce que ça n'arrête pas, le temps va trop vite aujourd'hui. C'est fou. On va tout de suite à votre choix musical. Vous devez, Dominique Olivier, nous expliquer pourquoi.
Ben écoutez, on m'avait suggéré de prendre un choix musical haïtien, et je vous dirais que c'est toujours, chaque fois je pense toujours à cette chanson d'Emeline Michel, à Caïtao, parce que je vous dirais que c'est ce qui m'a réconciliée avec mes origines. Je vous parlais de la période où je voulais être normal, donc il y avait comme un rejet de cette identité haïtienne, et j'ai découvert Emeline Michel et cette chanson, et tout d'un coup j'ai dit, tiens, ça me ressemble.
Alors, nous sommes avec Dominique Olivier, et dimanche passé est arrivée cette journée où là, vous êtes rentré en poste. Vous avez gagné. Votre vie s'est transformée, et pour plusieurs années, racontez-moi l'émotion que vous avez eue de vous retrouver avec Madame Plante sur la scène. Racontez-moi tout.
Ah ben écoutez, c'était jusqu'à aujourd'hui, hein, ça fait déjà quelques jours, j'ai de la difficulté à imaginer qu'il y a des gens qui ont voté pour moi, qui m'ont choisi pour aller les représenter et qui ont rendu ceci possible. Ils l'ont fait sachant, certains sachant le poste que j'allais occuper, mais d'autres simplement parce qu'ils m'ont vu venir frapper à leur porte et entreprendre une conversation avec eux. Alors, l'émotion était incroyable. Même en sachant qu'on avait des bons chiffres, même en sachant que j'étais dans un district qui était favorable à Projet Montréal, même en ayant fait 60 jours où j'ai cogné tous les jours, j'ai entrepris des conversations avec entre 50 et 100 personnes chaque jour. Donc, je savais ce qui m'attendait, mais je me disais, il faut encore qu'ils se déplacent et qu'ils aillent le mettre dans l'urne. Alors ça a été la première chose. Je vous dirais que quand Mme Plante m'a contactée, l'idée qu'on serait deux femmes à la tête de Montréal, ça m'a vraiment allumée. Et c'est ce qui fait que j'ai accepté au fond de lâcher tout ça pour tout ce que j'avais construit au fil des ans et de plonger dans l'inconnu. Et là, soudain, quand j'ai entendu dire pour la première fois, Montréal va être dirigé par deux femmes et que les gens se sont mis à scander mon nom, c'était une émotion incroyable.
Votre prénom, ça c'est encore plus touchant.
Oui.
C'est touchant quand on scande le prénom, c'est que on vous aime, vous êtes proche. C'est pas le nom de famille, là. On a dit Dominique. Dominique, ça, c'est un moment assez émouvant.
Oui. C'était vraiment un moment... c'est une émotion qui est incroyable. Mais je vous dirais que ce qui m'a encore plus fait plaisir, ça a été de réaliser que j'arrivais là, non seulement moi, mais également 5 autres élus dans Projet Montréal qui sont issus de la communauté noire. On est 6, dont la première mairesse à Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce.
Oui, oui, oui.
C'était de voir qu'il y avait Alia Hassan-Coursol, qui est la première femme d'origine arabe, qui est élue, de voir Laurence Parent, qui est une personne en situation de handicap, qui est élue. Et c'était comme si, soudain, tout ce pour quoi j'avais travaillé entre l'âge de 20 ans et l'âge de 57 ans que j'ai maintenant, se réalisait, se matérialisait d'un seul coup. Je n'allais plus non plus avoir le poids de porter toute la défense de la diversité sur mes épaules. Pour une fois, je peux être la personne que je suis, la gestionnaire que je suis, parce qu'on peut partager ce poids-là, de s'assurer que la voix des minorités est entendue.
C'est extraordinaire, cette phrase-là. Je suis même en train de l'écrire, parce que je trouve ça très beau et très vrai, parce que ça doit être difficile de dire d'être la première tout le temps, à chaque fois. Je suis la première, et ne plus avoir le poids. Tout simplement être qui vous êtes, avec le CV, avec l'intelligence que vous avez. Vous êtes rendu là, mais vous avez quand même fait énormément de travail avant, puis là, c'est établi. Un peu comme je disais à ce micro, ce qui est bien, et qu'elle a dit elle-même, la mairesse, j'ai pas à défendre que je suis la première femme. C'est fini, ça, on passe à autre
voilà,
chose.
Exactement.
On est rendu au deuxième mandat. OK, la première fois, j'étais la première, mais maintenant, parlons de moi, parlons de qui je suis comme mairesse, et non la première femme.
Exactement, exactement. Et ça, ça a un poids extraordinaire, je pense, aussi dans la capacité pour nous de réaliser. C'est ne plus avoir à faire des preuves liées à notre sexe, à notre genre, à notre identité ethnoculturelle. C'est vraiment faire des preuves par rapport aux idées, par rapport à ce qu'on veut porter.
Alors, les chaussures, hein, c'est quelque chose à porter, sont assez lourdes. Quels vont être les projets que vous voulez réaliser? Qu'est-ce que vous voulez faire de la ville de Montréal?
Ben, je vais vous dire, moi, j'avais trois, lorsque on a annoncé ma nomination le 12 septembre comme candidate, j'avais mis de l'avant trois priorités. Pour moi, il y en avait une première qui était la question de toutes nos infrastructures, donc liées finalement au poste que j'allais occuper, au budget, à s'assurer que la transition écologique se faisait correctement, qu'on arrête de construire à l'identique, qu'on commence à réfléchir aux impacts de ce qu'on a à faire pour l'avenir. Donc ça, c'est sûr que ça m'allume et c'est lié directement à mes fonctions. La deuxième, c'était la lutte aux inéquités. J'ai travaillé longtemps là-dessus. Moi, je suis encore traumatisée quand je pense à des endroits que j'ai visités quand j'étais attachée politique de ministre, par exemple, dans le Sud-Ouest, avec des jeunes de la communauté noire qui n'avaient aucun équipement pour s'entraîner. Ça a changé, mais pas partout. Il y a encore plein de lieux où on est en déficit d'équipement culturel, où on est en déficit d'équipement collectif, où il y a des poches de pauvreté, où les gens sont enclavés. Donc, pour moi, être capable de travailler de façon transversale pour ces gens-là, c'est super intéressant. Et le troisième, ça résonne beaucoup avec ce que vous disiez, le premier invité. Moi, j'appelle ça remailler le Québec. Hein. Je dis, en Abitibi, on dit que le Québec est tricoté serré, mais moi, j'ai l'impression que Montréal est une maille relâchée ou une maille oubliée. Alors, je me dis, il est temps que, comme Montréalais, on se rende compte qu'on fait partie du Québec. Donc, qu'on rentre dans une histoire, une culture, qu'on continue à écrire, là, ne vous méprenez pas. Mais pour moi, la question de la langue est fondamentale. Bon. D'ailleurs, à titre de présidente du comité exécutif, pour vous dire à quel point c'est important, j'ai demandé d'avoir la responsabilité du dossier de la langue à Montréal.
Alors, on va se parler.
Oui, sûrement. Parce que pour moi, il faut qu'on s'inscrive dans l'identité, dans la poursuite du fait francophone
Oui, parce que
en Amérique.
Vous voyez très bien qu'on est en train de perdre notre langue à Montréal. Il y a un recul, mais il est là, il est palpable tous les jours dans les commerces. On se promène dans la rue. Dans la rue, là, sur Saint-Laurent, parce qu'on est sur Saint-Laurent, mesdames, messieurs. Ben, moi, j'entends juste en anglais.
Oui,
j'entends plus le français, puis je me dis, ouais,
absolument.
Je suis...
Est-ce que et je on suis se promène à... sur le plateau, et il y a des gens qui s'adressent spontanément à nous en anglais, sur le plateau. rien contre l'anglais, je le parle. Non, mais et je crois que toutes les langues sont des richesses. Mais il faut aimer, mm-hmm. il faut connaître mm-hmm. la langue française et on ne peut pas se passer de cette diversité culturelle-là
non,
que nous apporte le français, le fait qu'on soit la plus grande métropole francophone en Amérique. Il faut qu'on participe au rayonnement de la francophonie. Mmh. Donc, pour moi, il y a ça. Mais il y a aussi le fait que, souvent, le reste du Québec, quand on dit qu'il y a des problèmes à Montréal, ils ont tendance à se désolidariser. Donc, pour moi aussi, je pense que ça va être important que le reste du Québec reconnaisse, constate que Montréal est la métropole du Québec. Mmh. C'est notre locomotive et il faut qu'ils en soient fiers. Ça m'a beaucoup attristé l'autre jour lorsque, dans son discours, M. Legault, le premier ministre, n'a jamais prononcé le mot Montréal quand on sait à quel point les besoins sont à Montréal.
Oui.
C'est la moitié de la population du Québec, la grande région de Montréal.
Là,
donc,
il
faut travailler
les
là-dessus.
Les besoins, notamment aussi en ce moment, pénurie de logements abordables, à travailler là-dessus, parce que ça a augmenté terriblement les loyers. Puis encore une grande liste.
Voilà.
J'en parlais avec Robert Baudry, qui a été élu, qui est membre et maintenant conseiller. Il est toujours conseiller. Mm-hmm. Et c'est, ça aussi, ça a travaillé. C'est vraiment alarmant.
Oui, absolument. Les priorités de notre administration, c'est ça, c'est la transition écologique, c'est l'habitation abordable et sociale, je pense qu'on ne peut pas les distinguer, qui vont assurer la mixité de la métropole et c'est bien sûr une relance économique, mais une relance économique inclusive.
Alors, Dominique Olivier, il y avait Denis Coderre qui a fait sa campagne sur deux mots, finalement. Il disait toujours que la ville était insécure et sale. Qu'est-ce que vous pensez ça? Il n'arrêtait pas de marteler en disant que c'était sale et qu'était insécure. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, moi, je pense que... personnellement, moi, je trouve pas que Montréal est sale. Je comprends qu'il y a des moments où Montréal pourrait encore améliorer la propreté, puis on va travailler là-dessus. Quant à la question de sécurité, moi, je dis toujours, la réponse première, c'est un État plus policier, hein? C'est plus de policiers. C'est sûr qu'il en faut. Mais il faut aussi se poser la vraie question. Pourquoi est-ce qu'on a des grande part de la population qui s'imagine qu'ils n'ont aucun autre choix que de verser dans des activités illicites pour gagner leur vie. Je dis, il faut qu'on offre des choix aussi à ces jeunes-là. Mmh. Puis ces choix-là, ça passe par du logement abordable, ça passe par des opportunités d'emploi, ça passe par des équipements collectifs. Mmh. Et c'est ça que la ville peut faire pour aider à enrayer la sécurité au-delà du problème immédiat.
Trouver des projets, parce que finalement, c'est souvent des jeunes qui sont tout seuls, puis qui cherchent une vie, qui cherchent à se faire remarquer, puis ils vont aller dans le plus facile, puis donc c'est souvent ça. Donc ils sont souvent laissés à eux-mêmes, puis au lieu d'envoyer plein de police, on ferait mieux peut-être se dire, on peut peut-être trouver des projets, ouvrir des centres de jeunes.
Exactement, et puis leur donner des modèles positifs aussi de réussite, que ce ne soit pas les seuls modèles qu'ils aient, soit des modèles là-dessus. Moi, j'ai des cousins qui ont grandi à Rivière-des-Prairies, puis qui me disaient, nous, on est allés dans les cadets de l'armée parce qu'on avait besoin de structure, ou bien on est allés dans tel type ou tel organisme a été notre sauvegarde parce qu'on passait à travers trois territoires de gangs de rue pour aller à l'école. Alors, ça s'intègre. J'ai une des candidates de Projet Montréal, la jeune Fatima, qui était dans Salazar, qui était dans Montréal-Nord. Et elle m'a dit à un moment, elle dit, tout le monde tape sur Will parce qu'on dit qu'il a connu des criminels. Elle dit, mais qui à Montréal-Nord ne connaît pas de criminels? Denis Coderre lui-même, son fils, a été arrêté par la police. Et j'ai trouvé que c'était une façon intéressante d'amener un tissu social et de dire, il y a peut-être un problème de fond. Et pour eux, la deuxième chance, le droit au rêve, était quelque chose qui les a portés dans leur campagne. Et je souhaite qu'on ne voit pas ces jeunes-là disparaître.
Alors, j'aime beaucoup votre expression, le droit au rêve. Vous avez parlé d'Haïti en terminant, parce que malheureusement, le temps nous fait la guerre, Madame Olivier. Vous avez dit, je me suis réconciliée. Vous êtes réconciliée avec votre pays d'origine?
Ah oui, bien sûr. Je pense que je me suis réconciliée avec toutes les parties de mon identité. Je me rends compte, mon père disait tout le temps, l'identité, c'est pas un veston prêt à porter. Hein? Donc, t'as beau vouloir prendre celle de quelqu'un d'autre, ça marche pas. Il faut vraiment accepter que ce qu'on est, c'est la construction de toutes nos identités. Et c'est ça qui fait la richesse du peuple.
Ben, c'est une richesse de vous avoir pour diriger la ville. Vraiment une richesse, un plus pour tous les citoyens et citoyennes. Je me permets d'être non objectif pour terminer l'émission. Merci beaucoup, Dominique Olivier.
Merci beaucoup de m'avoir invitée.